Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Le Guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage.
Bilan des constructeurs, ou plutôt des marques, devrais-je dire. On se concentre aujourd'hui, les gars, sur la marque Genesis, qui pour moi est toujours, a toujours été une curiosité, parce que Hyundai a d'abord mêlé les gens en lançant des Hyundai Genesis sur le marché,
Genesis,
c'est ça.
Ouais.
Alors autant le coupé que la berline, t'avais un coupé qui avait rien à voir avec la berline, qui s'appelait des Hyundai Genesis. En cours d'année 2016, ben là, la Hyundai Genesis est devenue une voiture Genesis. Et pendant quelques années, Genesis n'a vendu que des voitures à contre-courant complètement.
Oui, c'était surprenant dans ce temps-là. Là.
Et il fallait comprendre d'où venait Genesis pour réaliser la raison pour laquelle on ne vendait que des berlines alors que tout le monde était dans le VUS. C'est qu'il faut comprendre que sur le marché de la Corée du Sud, Les grandes voitures de luxe ont la cote encore aujourd'hui.
Absolument.
Sont
oui.
extrêmement populaires. La Genesis G80, qui est une grosse voiture de luxe, qu'on vend aujourd'hui autour de 80 000 $ est une des voitures les plus vendues en Corée du Sud. Alors, c'est quelque chose de complètement inimaginable
ici,
sur notre
inimaginable.
Marché. Mais ça explique pourquoi on a mis autant d'énergie à développer ces voitures-là et à les amener chez nous. J'ai toujours trouvé que c'était intéressant comme formule parce que tous les Américains abandonnaient leur héritage. Chrysler, Lincoln, Cadillac abandonnaient leurs voitures les unes après les autres.
Toutes des utilitaires les remplaçaient.
Oui, les Acura, les, je dirais pas Lexus, mais Acura Infiniti, les voitures s'abattaient de l'aile. Alors, Genesis a pris la balle au bon, est allé chercher des petites parts de marché, surtout aux États-Unis, dans un segment où tout le monde abandonnait. Alors, c'était intéressant de voir ça, mais là, évidemment, sont arrivés les VUS, le GV80, le GV70. Et aujourd'hui, ben, je trouve que Genesis est dans une position extraordinaire, a un portfolio de véhicules franchement intéressant. Et pour avoir parlé avec le dirigeant de Lexus Canada tout récemment, il m'a confié que la marque qu'il regardait le plus dans son rétroviseur, c'était Genesis. C'est pas Cadillac, c'est pas Infiniti, c'est certainement pas Acura. Les Allemands, on les considère plus ou moins parce que c'est très variable et la clientèle n'est pas nécessairement la même. Chez Lexus, où on a une clientèle fidèle, ben, lorsqu'on perd des clients, c'est parfois parce qu'on s'en va chez Genesis et ça, c'est à considérer. Vous avez conduit des produits de Genesis, vous en pensez quoi? Vous avez vu ces produits-là aussi? Là?
Un des plus gros challenges de cette marque-là, ça a été de se détacher un peu de Hyundai, de l'image qu'on avait de Hyundai. T'sais? Parce qu'au Québec, bon, tous les salons qu'on a fait à Montréal, quand que Genesis arrivait, les véhicules arrivaient tranquillement, le monde disait « Ah, oh, moi, je veux pas ça, c'est une cochonnerie de Hyundai ou je sais pas quoi. » C'est pas le cas, puis c'est quelque chose qui m'a... C'est un véhicule qui se distance très bien de sa marque mère, puis aussi qui fait un beau travail à créer son propre luxe. Là, à créer, des fois, on lit des communiqués de presse chez Genesis, puis bon, ça devient compliqué. Là, c'est, le tableau de bord est fait en bois d'un arbre qui a été coupé dans une montagne sacrée ou je sais pas quoi. Des fois, ça, on dépasse les bornes. Là, mais tout pour dire que si vous êtes déjà installé dans un véhicule Genesis, on remarque la qualité, on remarque les matériaux, on remarque l'attention.
Il y a une attention
au détail. Puis et original. Original distingue.
Je pense que c'est le point, moi, qui me séduit le plus chez Genesis, c'est que depuis 20-25 ans, tout le monde essaye de faire comme les Allemands, même les Américains. Et Genesis est arrivé et a dit, non, on va faire à notre façon à nous.
Ouais.
Et on va arriver avec notre façon de faire. Et quand on regarde un char allemand, c'est pratiquement tout le temps la même chose depuis 15 ans. C'est tout le temps la même chose depuis 15 ans en termes de design. Ils changent une ligne, un truc. On monte dans un char allemand, bon, c'est tout, partout pareil. Et on rentre dans une Genesis, on fait, ah! C'est différent.
Mais en même temps, on s'est quand même un peu inspiré. Tu sais, il y a de l'inspiration Bentley, il y a de l'inspiration de plusieurs...
On a fait affaire avec des grands designers, là, quand même.
Ben oui, parce que de toute façon, on peut pas réinventer complètement l'habitacle.
Exact.
Mais en même temps, je trouve quand même qu'il y a une façon de faire qui est propre.
Ouais.
Au lieu
d'être
plus allemand que les Allemands, ce qu'a essayé de faire un petit peu Cadillac,
ouais.
Ils sont arrivés en disant, non, nous, on va être coréen, on va faire notre façon de faire coréenne, et puis on verra. Et puis ça marche.
Et puis ça fonctionne. Bon, évidemment, on a encore un réseau de concessionnaires relativement limité. On n'est pas installé comme Lexus, comme Acura encore. Ça s'en vient. C'est une marque qui a 6 ans bien sonné maintenant sur notre marché. Et on est encore en mode séduction. On a aussi eu des problèmes d'approvisionnement de véhicules, ce qui explique des augmentations de ventes en 2023 que je considère timides pour cette marque-là,
oui.
Même si aujourd'hui on est rendu carrément au même niveau que Lincoln. On a même dépassé Infiniti cette année. Tu vas me dire que c'est pas compliqué, mais Infiniti est arrivé sur le marché en 1990 chez nous. Là.
Oui, ça
et
fait
ça, c'est une marque qui se cherche. Alors, oui. Le portfolio de Genesis est composé de 6 produits en ce moment. 3 voitures, 3 VUS. Et bon, on pourrait plus dire 2 VUS et un véhicule électrique qui se prend pour un VUS.
C'est ça. Oui, oui.
Mais
le
qui
petit
en mon sens, c'est ça. Et c'est ce produit-là, moi, qui me surprend au niveau des chiffres de vente. 454 ventes l'année passée au pays tout entier.
Pas beaucoup.
Non subventionné. Alors, c'est un véhicule qui n'est pas éligible aux subventions et que par la peau des fesses. Et j'ai l'impression qu'on a décidé de se concentrer davantage sur d'autres marchés pour cette raison-là. Parce que les subventions, on les obtient chez Volvo, on les obtient chez Audi, on les obtient chez certains autres constructeurs qui ont des véhicules rivaux,
oui.
Tesla évidemment, mais le GV60 n'est pas éligible et ça, ça lui a fait très mal.
Il faut parler aussi de la différence entre le GV60 puis le GV70 électrique. Qui est,
ça n'a rien à voir.
Qui a rien à voir. Là, tu sais, les gens pensent, bon, GV60, OK, GV70, lequel que j'achète. Le GV60 est bâti sur la plateforme EGMP,
ouais.
Qui est partagée, l'Ioniq 5, EV6, etc., qui est partagée Kia Hyundai. Et puis, le GV70, c'est la plateforme du véhicule à essence.
Ben, c'est ça, c'est un véhicule adapté.
C'est un véhicule adapté. Ouais. Donc, moteur en avant, moteur en arrière, et puis la batterie. On a pris ce véhicule-là parce qu'on voulait embarquer dans le segment des utilitaires compacts de luxe le plus rapidement possible. Mais il faut s'attendre aussi à ce que Genesis arrive avec son GV70 électrique bientôt pour avoir une gamme qui est un petit peu plus logique. On a fait la même affaire avec la G80 berline d'ailleurs, là, qui est un véhicule adapté.
Oui, mais la G80, évidemment que c'est pas du gros volume. Là. Chez nous, tu vois, c'est 383 unités en 2023. La G70 qui vient rivaliser avec des Audi A4, BMW de série 3, ce genre de véhicule-là, Mercedes de classe C, bien évidemment, on est dans un segment en dégringolade. Alors, il y a beaucoup moins d'acheteurs de classe C qu'il y en avait il y a quelques années. C'est la même chose pour la série 3, c'est la même chose pour la 4.
Ouais.
Écoute, la Cura TLX, on n'en parlera même pas. Ouf. Qui achète ça? Lexus IS, ça se vend encore un peu. Infiniti, la Q50, c'est une super bonne voiture.
Une vieille voiture.
Mais c'est du bois mort. Et c'est drôle parce que la G70, pour moi, c'est la voiture qui se rapproche le plus de la Q50 en termes de confection, de design, de courbe,
ouais.
De conduite même. Mais cette année, bon, j'en ferai l'essai dès la semaine prochaine. Elle débarque avec un nouveau moteur 4 cylindres 2.5 litres. Alors ça risque de lui donner un peu de pep. Et c'est un produit qui se vend encore bien aux États-Unis. Même chose pour la G80. Mais chez nous, évidemment, le produit le plus populaire, c'est le GV70,
oui.
Qui séduit tout le monde par son design, par son équipement. Écoute, t'achètes ça, là, c'est service inclus pendant 5 ans, c'est une qualité de produit qui est exceptionnelle.
Le modèle d'affaires, justement, tu le mentionnes chez Genesis, oui. qui est quand même attrayant. C'est pas tout le monde qui le connaît, mais on offre un service quand même assez... de type concierge, là.
C'est oh
pour prendre le nom du constructeur là, qu'il utilise, mais c'est quand même sans tracas. Et puis, c'est ça qui fait parfois gagner Genesis dans certaines, dans certaines clientèles qui ne veulent pas aller passer du temps, par exemple, chez les concessionnaires Mercedes ou BMW, etc. Puis d'acheter un véhicule qu'on peut venir chercher au bureau ou à la maison pour faire les entretiens qui sont inclus d'ailleurs pendant un bon bout de temps.
C'est une marque qui est vouée, c'est une marque qui est en pleine ascension, qui va continuer de nous surprendre, je pense, dans les prochaines années. Alors, c'est 6617 unités qui ont été vendues au Canada l'an dernier. Et si tu compares avec le marché américain, on a vendu 68 798 véhicules aux États-Unis. C'est carrément du 10 pour 1. Alors, le ratio est parfaitement normal.
C'est ça.
Tu vois que l'ascension se fait de façon très linéaire.
Oui.
Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dès l'année prochaine. On va continuer de développer des trucs. Attendez-vous évidemment à un VUS encore plus gros que le GV80, probablement tiré du Kia EV9 et du Hyundai Ioniq 7, mais en version hyper luxueuse. Ça, on va amener ça dans les prochaines années, c'est certain.
Oui.
On va nous surprendre chez Genesis. Je pense que c'est une marque qui est vraiment sur la bonne voie, contrairement à des divisions comme Infiniti, Acura, où ça bat un petit peu de l'aile. On va maintenant passer à nos essais de la semaine. Louis-Philippe, oui. Tu as conduit le Lexus TX. Moi, j'ai eu la chance de le conduire aussi au lancement médiatique. Tu en as pensé quoi?
Ben, comme on dit, chez Toyota Lexus, on a le Grand Highlander, le Highlander, Grand Highlander et le Grander Highlander qui est le Lexus TX.
Ouais, c'est ça.
Parce que c'est quand même des véhicules qui se ressemblent. Grand Highlander et Lexus TX, là, c'est un peu un copier-coller, là, si on veut. Véhicule à trois rangées, évidemment. Un VUS à trois rangées. J'ai essayé la variante 350, c'est-à-dire la variante d'entrée de gamme, là, parce qu'il faut savoir que le TX a des variantes hybrides, hybrides rechargeables. L'hybride rechargeable, 550H+, je pense qu'il est pas encore, qui va arriver au Canada, mais qui est pas encore disponible. On peut pas tout de suite le commander sur le site.
Ouais.
Puis on en reviendra à ceux-là, mais pour le TX 350, là, c'est un véhicule que j'ai aimé autant que le Grand Highlander quand que je l'ai essayé. C'est-à-dire, très spacieux. On a réussi à
c'est
faire.
C'est le fun, on le sent excité.
On a réussi à faire une trois. On a réussi à faire une troisième rangée qui est acceptable dans ce véhicule-là, autant dans le Grand Highlander que dans le TX. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner quand même, que des gens qui cherchent un véhicule dans ce segment-là, c'est pas toujours le cas, qu'on est capable d'avoir un peu d'espace dans la troisième rangée. En termes de performance, on a le même moteur. Hein, c'est 2.4 litres turbo. On développe 275 chevaux du côté du Lexus TX et 265 chevaux du côté du Grand Highlander. Par contre, c'est le même moteur. Je pense que le TX demande 91 d'octane. Le Grand Highlander demande de l'ordinaire. Si on mixe les essences, on va aller chercher les performances croisées. Ça va bien fonctionner.
Et c'est la même chose. Soit dit en passant, c'est exactement la même situation avec un Acura MDX versus un Honda Pilot.
Ouais.
Et c'est exactement la même situation avec un Infiniti QX60 versus un Nissan Pathfinder.
Ouais.
Alors, je ne sais pas pourquoi on continue de nous prendre pour des imbéciles comme ça. Parce que, je veux dire...
C'est
juste changer de carburant, puis c'est ça.
Exactement. Mais, ça n'a pas besoin de coûter plus cher qu'il faut.
Exactement.
Pour le D-Force, là.
Mais moi, j'ai trouvé que c'était un... Tu sais, dans la famille Lexus, le RX est un produit établi. C'est un produit qui, encore cette année, m'impressionne.
Ouais.
Le TX fait ce qu'il y a à faire.
Exact.
On comprend pourquoi on l'a amené, parce que le RXL, ça n'a pas fonctionné. C'était une erreur. Mais en même temps, c'est pas excitant. Là.
C'est pas excitant.
En matière de design, bien que plusieurs produits Lexus ne me rejoignent pas, c'est clairement un des moins originaux, un des moins excentriques. C'est le plus pragmatique des VUS de luxe de son segment avec le QX60 d'Infiniti. Là.
Qui est, qui est quand même un autre produit vieillissant. Là.
Ouais. Ben, pas vieillissant, parce que. Mais je veux dire, c'est pas. C'est zéro excitant, tu sais. Puis tu déplies quand même 80 000 piastres.
Écoute, on en vient à ça. Ça commence à 71 000 $ mais là, avec les options qui sont nécessaires, on déplie justement 80 000 $ Un Grand Highlander, ça commence à, je pense, 56 000 ou quelque chose comme ça. Bon. C'est une question qui se pose, là. Est-ce qu'on a vraiment besoin, là, d'un Lexus TX?
D'une part, il y a des gens qui vont vouloir avoir le service Lexus, aller chercher cette insonorisation, ce confort supplémentaire qu'on peut aller chercher.
Les matériaux sont plus beaux. On a remplacé des plastiques par des matériaux qui sont plus doux au toucher. Là, je lui donne, là, quand même. Il y a des boutons qui sont plus chics, mais c'est essentiellement le même layout, la même disposition, la même...
Mais tu sais, j'ai lu des chroniques de collègues américains qui comparaient ça à un Audi Q7 en disant qu'on avait un véhicule plus économique qui sera... Oui, mais c'est pas du tout la même expérience, là. Pour moi, c'est une fourgonnette de luxe sans porte coulissante. C'est pas d'autre chose que ça, là.
C'est bien décrit. C'est... Moi, je trouve que je vais attendre la variante, par exemple, qu'on a parlé, la 550H+, qui peut peut-être être plus excitante, c'est 404 chevaux avec une autonomie
toute électrique. J'ai eu la chance de la conduire, mais ça va être légèrement au-delà des 100 000 $
Oui, c'est ça.
Alors, oui, il y a de la puissance. Oui, on peut rouler tout électrique.
Ouais.
Là, il y a de la belle technologie, mais ça va être au-delà des 100 000 $ En même temps, une Chrysler Pacifica Pinnacle plug-in hybrid, c'est 76 000. Est-ce que ça vaut 25 000 de plus qu'une Chrysler Pacifica Pinnacle? La réponse est oui. Mais laquelle est trop chère? la Chrysler Pacifica Pinacle.
On est rendu à faire ces comparaisons-là.
Ben oui. Puis, tu sais, je suis certain que les gens de Lexus ne seront pas heureux de savoir que je compare leur TX à une fourgonnette, mais je ne peux pas comparer ça à un SQ7. Là. Comprends-tu? On n'est pas dans le même...
On n'est pas dans le même niveau de performance. Non, c'est vraiment... niveau d'expérience.
Puis,
voilà.
Puis je pense que le TX 550H+, en termes de performance... risque de se comparer, par exemple, à un MDX type S qui, lui, a aucune technologie hybride ou rechargeable ou quoi que ce soit, mais qui tente d'aller chercher plus de performance, avec probablement une dynamique supérieure, oui, mais quand tu sais qu'avec le Lexus, tu vas pouvoir rouler à 60 km tout électrique, puis après ça, rouler à 6 litres, 7 litres au 100 avec 400 chevaux, ça risque d'attirer bien des gens qui pour eux, sont prêts à débourser 100 000 pour un véhicule familial, mais ont aussi ce côté pragmatique et peut-être même écologique de dire...
De bon, l'hybride ben, rechargeable.
On n'a pas besoin d'avoir un monstre à la Range Rover pour déplacer les enfants.
Ouais.
En même temps, mon père m'a déplacé toute mon enfance dans une Pony et une Stellar, alors il y a des enfants plus gâtés que d'autres.
Toi, t'as conduit la Dodge Hornet?
Oui, le Hornet le RT Hornet. Plus. Facture du Dodge Hornet.
On commence par la facture.
Parce que le Hornet vient se glisser dans le créneau des CR-V RAV4. Nan, nan, nan. 67 500 pour le Hornet RT+. Hybride rechargeable avec un 4 cylindres de 1.3 litres turbo combiné à un moteur électrique qui te permet de rouler une cinquantaine de kilomètres tout électrique, puis après ça, ben, t'es à du 8 litres au 100. C'est rien de révolutionnaire. Le pire ennemi du Dodge Hornet, c'est son jumeau, qui est l'Alfa Romeo Tonale.
Oui.
Parce que Alfa Romeo a triplé ses ventes depuis que ce véhicule-là est arrivé, mais Dodge ne triplera pas ses ventes avec un Hornet. Parce qu'évidemment, ben, c'est difficile d'être compétitif avec un véhicule comme celui-là, qui est même plus à l'étroit qu'un Mazda CX-5.
Mm-hmm. Qui est déjà très étroit, qui est
plus petit que tous ses rivaux.
Oui.
Et un Hornet, bon, t'as évidemment une version à moteur 2 litres turbo à essence traditionnelle, qui dépasse largement le seuil des 40 000 $, parce que tu n'en verras pas des versions de base. Alors ça, c'est la version GT. Et quand tu t'en vas dans la version RT, ben, c'est l'hybride rechargeable. Véhicule intéressant sur le plan dynamique. Oui. Moi, j'ai vraiment pas détesté. Mais
c'est agréable à conduire, mais faut pas que tu penses trop à la facture.
Ben, en fait, le 65 500 $, tu retires ensuite... un 10 000 $ de crédit gouvernemental applicable.
Oui.
Alors, c'est 8 656 $ plus taxes qui fait 10 000. Et pourquoi? Parce que tu as une batterie de 15,5 kWh, donc juste au-dessus de la limite pour qu'il soit éligible, et tu as une autonomie électrique affichée à 51 km, qui est juste au-dessus des 50 km pour qu'il soit éligible. Alors,
mais ça, c'est un pur hasard.
Oui, c'est totalement un pur hasard. C'est drôle, ça donne bien, tu sais. Non, on a développé un véhicule de conformité pour que ça fonctionne. Et à cause de ça, on a pu grimper les prix, sachant que...
Voilà.
Et évidemment que on vend... Bon, c'est pas comme si on vendait énormément d'unités en ce moment, mais on va vendre plus d'hybrides rechargeables que de versions régulières parce que, rendu là, l'écart de prix entre les deux n'est pas si grand que ça. Considérant que tu ramènes le prix 10 000 $ plus bas, évidemment que de mettre des options dans une version GT, ça fait en sorte que les prix viennent se frôler. Là où j'ai un problème, c'est que c'est pas un Dodge.
Ben, c'est ce qu'on disait il y a deux semaines. Ouais. Le Tonale va aider la marque Alfa Romeo à avancer et à la redéfinir, mais le Hornet n'aidera pas la marque Dodge à se définir.
Ben non.
Comme tu l'as dit tantôt, véhicule de conformité, c'est pas quelque chose qui va durer ben longtemps.
Ben en fait, c'est un véhicule de transition pour moi chez Dodge, parce que Dodge est en année de transition. C'est-à-dire qu'en 2024, t'as le Durango et t'as le Hornet. Le Durango, c'est un produit vieillissant. On sait que les V8 disparaissent l'année prochaine. On va peut-être le garder un an encore. Et après, Dieu seul sait ce qui va venir le remplacer. Mais on va fort probablement s'inspirer du Grand Cherokee pour créer un équivalent chez Dodge avec cette nouvelle plateforme-là, avec cette nouvelle technologie-là. Et on va arriver aussi avec Charger électrique, Charger avec le moteur Hurricane. Et on verra ce qui va arriver. Mais le Dodge Hornet, c'est un Alfa Romeo avec une autre calandre.
Oui.
Et vous conduisez un véhicule italien de A à Z. Là où j'ai un peu mon scepticisme n'est pas que modéré, c'est que on a déjà fait cet exercice-là il y a une dizaine d'années avec la Dodge Dart, qui était aussi une Alfa Romeo, et ça a été un échec sur toute la ligne. Alors, comment ça se dessine pour le Hornet? Je pense que ça va être un peu moins pire. Mm-hmm. On est dans un autre contexte.
Oui, il est quand même plus dans le cœur du marché que la Dart ne l'était à l'époque.
Oui, effectivement. Ouais. Puis Dodge a toujours eu de la misère avec ses voitures compactes, même si on a eu beaucoup de succès avec la Neon. Le Hornet, c'est un véhicule qui, oui, porte l'emblème Dodge, mais ne perdurera pas extrêmement longtemps, selon moi, alors que chez Alfa Romeo, c'est un vent de fraîcheur. Alors, mm-hmm. c'est drôle comment un même produit chez deux marques, marketé et vendu de façon différente, peut avoir un aspect complètement distinct. Ouais. Alors, bravo à Alfa Romeo, et chez Dodge, ben, je dis bonne chance. Alors, messieurs, c'est tout pour cette semaine. Je serai en essai routier la semaine prochaine. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, j'ai 70 2.5 turbo. Je vais aussi aller mettre à l'essai le Sprinter 4x4 dans le sud des États-Unis. Alors, on verra comment on s'organise pour l'émission de radio. On va tenter des trucs. Hein? À Cube Télé et à Cube Radio, c'est bien des premières fois ces temps-ci. Alors, on va s'adapter pour la prochaine émission, mais on se retrouve très prochainement.
Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Le guide de l'auto. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.